Radio Django, en direct du Festival Cinéma d'Afrique.
Exactement, de 18 à 21h, et ce jusqu'à dimanche soir. Vous donnez brièvement le programme des films dont on va parler ce soir. Tout à l'heure, dans une quinzaine de minutes, on vous parle du film Le Fou, le Génie et le Sage de Maïmouna Ndiaye. On reçoit sa réalisatrice tout à l'heure, dans 40 minutes à peu près. I'm Not a Witch, on reçoit Orphée Nzinga pour parler de ce film en détail. Mais tout de suite, on va vous parler du film Lendemain incertain.
Le Festival Cinéma d'Afrique 2018, c'est sur Radio Django.
On ouvre ce soir cette émission avec un premier film, Amina, Lendemain incertain, un film du réalisateur Eddie Munyanenza. D'ailleurs, ce dernier, on devait le recevoir, mais il y a un certain problème de visa, malheureusement.
Oui, absolument, Fabien. Alors, en effet, il devait être là aujourd'hui avec nous, donc en direct. Et puis, à la dernière minute, nous avons eu l'information qu'il n'a pas pu obtenir de visa d'entrée en Suisse, en sachant qu'il se trouve actuellement à Bruxelles et qu'il est requérant d'asile, donc burundais, tout nouvellement dans une demande en fait d'asile politique.
Pour la Belgique ou pour l'Europe?
Absolument, pour la Belgique. La Belgique, donc à Bruxelles en particulier. Et donc nous avons été extrêmement déçus en fait d'apprendre cette nouvelle. Et puis je voulais lancer un petit mot de solidarité par rapport à ça, et puis j'espère qu'il nous écoutera, soit en direct, soit plus tard.
C'est ce qu'on lui souhaite, on le salue en tout cas ici. Absolument. Depuis Lausanne, depuis ce Festival Cinéma d'Afrique,
tout à fait.
Édition 2018.
Tout à fait. Eh bien alors, j'ai quand même pris le parti de faire ce petit papier sur le film que j'ai vu, donc. Comme tu l'as si bien noté et puis intitulé, le film s'appelle « Lendemain incertain ». Et c'est un documentaire de création qui nous plonge dans le Burundi, et plus particulièrement dans les événements du printemps 2015, et qui ont été un peu oubliés par l'actualité et les médias, parce que feuilleton oblige, voilà. On cherche souvent après ce qui est trop sensationnel, donc on abandonne souvent les essentiels. Donc un petit rappel contextuel politique. Pierre Nkurunziza, au pouvoir donc, depuis 2005 au Burundi, met en place en 2015, un référendum pour avoir un troisième mandat qui assurerait sa présidence. Accrochez-vous bien, jusqu'en 2034. Rien que ça.
C'est demain.
Voilà, c'est demain, comme tu dis si bien. Donc cette annonce, évidemment, on peut l'imaginer, a retenti dans les oreilles du peuple burundais comme une aberration. Alors il s'en est suivi des manifestations contre ce troisième mandat, des manifestations massives qui ont rassemblé des milliers de personnes dans les rues de Bujumbura, la capitale burundaise. Donc un coup d'État manqué qui a fait sombrer le pays dans des violences inouïes, avec des répressions policières meurtrières qui ont poussé des familles entières à fuir le pays vers les exils incertains. Donc nous parlons de 2015. Je vous propose d'écouter la bande-annonce de cet extraordinaire film documentaire de création, Lendemain incertain.
Tu es né au moment des accords d'Arusha, parrainé par Nelson Mandela. Tes parents, comme tout Burundais, avait cru en une paix durable, en un Burundi uni et meilleur. Mais tu as été la première victime des manifestations d'avril 2015. La promesse qui t'a vu naître vient d'être rompue avec ta mort. Mais au milieu de tant d'arrestations, de kidnapping, de tuerie. Ma vie de couple a volé en éclats. Ma femme, mes enfants, se sont évaporés.
Voilà pour ce film Lendemain incertain du réalisateur Eddie Munyanenza, Amina.
Oui, tout à fait. Et puis, en fait, ce qui m'a énormément frappée, et je pense que ça risque d'être le cas pour toutes les personnes qui vont le visionner, c'est que donc Eddie Munyanenza film avec une mise en danger, une réelle mise en danger physique, les manifestations dans les rues. Il filme les abus policiers, la répression de l'armée. Il filme les victimes qui parfois tombent sous l'œil de sa caméra. Une caméra qui désire une chose, être témoin d'un chaos qui vire au cauchemar. Eddie, très tôt dans son film, dit sa difficulté à raconter, malgré les nombreuses images en sa possession. C'est un paradoxe, c'est clair. Trop d'images de l'horreur, tellement trop qu'il en manque. Je pense au film de Riti Pan, L'image manquante, donc le cinéma comme expérience de l'histoire qui se déroule sous les yeux du cinéaste. C'était au Cambodge, pendant le régime des Khmers rouges. En quelques années, entre 75 et 76, près de 2 millions 2 millions de Cambodgiens ont été tués. Chez Ritipan, donc, ce cinéaste, c'est la recherche en vain de l'image qui vient témoigner de ce crime de masse. Mais chez Edi Munyanedza, c'est l'opposé. Des images, il en a beaucoup, il en a trop. Elles sont vives et elles portent la mort, l'assassinat. Alors il construit. Il construit un récit filmique admirablement équilibré, où il est question de sa position de citoyen engagé socialement et de celle du cinéaste aussi. Il questionne la notion de la paix, sa résonance en cette période trouble où la violence quand même règne en maîtresse des lieux. Il fait l'expérience de l'exil et du vide profond qui se creuse en lui, éloigné des siens, resté sans nouvelles pendant des mois. Donc sa quête immédiate pour les retrouver aussi, elle est dans son film, dans sa narration, son retour risqué au Burundi, toujours à cœur, très fort, de témoigner des évolutions des événements qui ont semé vraiment l'horreur et qui ont secoué son pays. Il recueille des témoignages sur place, il continue à filmer dans les rues, il rapporte également des récits de personnes qui se sont exilées, brisées par la violence et la brutalité du régime. Edi Munyanedza repart à son tour, ça veut dire qu'il quitte à nouveau le Burundi, devenu clairement impossible. Image d'un renoncement légitime qui pose la survie au premier plan, ça c'est, on peut le comprendre. Edi Munyanedza laisse et prend avec lui un film nécessaire. Je dis qu'il le laisse et qu'il le prend à la fois. Un film de mémoire et d'histoire à mon sens. Il est placé de son point de vue d'auteur et c'est ce qui fera de son film une œuvre qu'on questionnera encore et encore. Le pari du cinéma est vraiment gagné.
Un film qui t'a plu, Amina ?
Complètement.
Conquise, on le remarque. Merci beaucoup pour cette mise en bouche de film. On va y revenir dans quelques instants avec notre invité Moussa Sawadago. On en parle dans quelques instants en deux mots. De quoi on va parler, Amina ?
Très volontiers. Alors nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir Monsieur Moussa Sawadago de Waga Film Lab. Bienvenue à toi. Merci beaucoup d'être ici. Et nous allons donc, Fabien, je ne sais pas ce qu'il faut faire.
On va en parler dans quelques instants,
oui,
puisque d'abord un petit peu de musique du Burundi.
Alors, très volontiers.
En hommage à justement le réalisateur Edi Munyanedza. De la musique du Burundi, d'ailleurs, on nous l'a préparé. Hein, c'est Stéphane qui nous l'a préparé en précisant cette petite chose. Donc, c'est une chanson traditionnelle, de la musique traditionnelle du Burundi, un chant en hommage au labeur désintéressé des abeilles. Il faut préciser quand même que c'est une chanson de 1971, mais cette chanson est une chanson qui n'a pas de droit d'auteur, puisqu'elle a été faite par des paysans locaux du Burundi. On l'écoute.
On se réjouit. Rakamamburu kimamburu ni nakanda kie. Uranjani mubi kumitiyama baye. Yopya baye murengera.
De la musique du Burundi en honneur à Edi Munyanedza pour ce film Lendemain incertain. Amina, notre invitée ce soir, passons au vif du sujet.
Oui, avec plaisir. Alors encore une fois, bienvenue à toi.
Merci pour l'invitation.
Merci à toi d'y avoir répondu. Donc Moussa Sawadogo, tu es un des invités de marque du festival. Oui, c'est comme ça que nous t'avons annoncé.
Wow.
Alors voilà, c'est bien, un petit peu de gonflette, c'est, ça passe bien. Alors dis-nous, dis-nous qui tu es.
D'abord, merci. Une fois de plus, merci. C'est tout un honneur vraiment d'être dans un bus et vous écouter et puis écouter de la musique, parler du cinéma africain, surtout en Suisse. C'est un grand honneur. Moi, personnellement, qui je suis un Burkinabé qui vit entre Berlin et Paris. J'ai créé depuis 10 ans un festival de films africains en Allemagne qui s'appelle Africamera. Et du coup, ici, j'ai travaillé pendant 4-5 ans au festival de Locarno où j'étais consultant Afrique pour le festival. Et après, je suis au festival de Nyon où j'ai travaillé pendant 2 ans aussi au niveau de la programmation Afrique pour le festival. Et puis, depuis quelques années, je gère maintenant le collectif Génération Film Awaga qui est chargé de l'organisation du laboratoire Waga Film Lab.
Alors, justement, ce laboratoire Waga Film Lab, c'est toi-même qui l'as mis en place ? C'est toi-même qui l'as créé ou c'est quoi ? C'est un collectif qui construit un petit peu une sorte de boîte ? Parce que j'ai été regarder ton site hein, ou votre site, parce que visiblement, tu n'es pas seul, loin de là. Et c'est une très bonne nouvelle, du reste.
Merci.
Ouais. Et donc, c'est en fait, vous êtes un groupe de gens qui avaient mis en place ça. Vous créez à la fois de la formation, de l'accompagnement. Il y a quelque chose qui s'appelle machinerie, mais tu vas nous éclairer là-dessus. Voilà. Alors, très volontiers, nous dire ce que c'est.
Je dirais... Oui, c'est un collectif. L'idée, le projet est porté par le collectif Génération Film. Mais dans tout collectif, l'idée de base elle vient d'une personne qui la met au profit de tout le monde, du collectif, pour pouvoir la développer. Et cette idée sans vantardise, ça vient de moi parce que j'ai eu cette expérience-là de travailler pour le festival de Locarno, surtout pour la section Open Doors, qui est un laboratoire qui est connu au niveau de l'Europe, au niveau du monde entier. Et j'ai eu cette chance aussi de pouvoir voyager dans plusieurs pays africains, européens. Et donc, du coup, je me suis dit, si tous les jeunes africains doivent traverser la mer avec les difficultés qu'on a pour venir en Europe pour profiter d'un laboratoire, il serait idéal aussi de mettre un laboratoire sur le continent africain. On a cette chance-là quand même d'avoir des grands réalisateurs sur le continent africain, et des mentors, des gens qui ont fait des films, qui ont eu des succès partout, à Locarno, à Cannes, à Berlin, à Venise. Il était important maintenant que nous, Africains sur place, nous mettons un laboratoire où on aurait pu compter vraiment sur des personnalités du cinéma africain pour pouvoir former ces jeunes-là, bien sûr en collaboration avec ceux du Nord.
Et ces jeunes-là, quand ils se présentent à vous dans ce laboratoire à Ouagadougou, ils sont porteurs déjà de projets ?
Oui, c'est ça le, disons, entre guillemets, c'est ça le deal. En fait, on fait un appel à projets chaque année et on reçoit quasi une centaine de projets. Et à l'intérieur de ces projets-là, nous choisissons que 10 et on essaie de prendre le réalisateur et le producteur, parce que c'est toujours le binôme en fait qu'on prend. Et à 6 semaines du laboratoire, les mentors, c'est-à-dire ces personnalités africaines qui ont déjà fait des films qui sont très reconnus sur le continent africain, comme Idrissa Ouedraogo. Oh. Père, son âme, c'est
que bon, Dieu, que Dieu ait son âme.
Ouais, il est déjà décidé, lui. Et on a Gaston Kabore, on a Dora Bouchoucha de la Tunisie, on a Jeanne Eltrari de l'Égypte, on a Mama Keita de la Guinée, on a Pedro Pimentel du Mozambique. Voici des personnalités du cinéma africain qui ont déjà fait leurs preuves. Ce sont des personnes qui ont aussi qui ont vécu entre l'Europe et l'Afrique. Ils connaissent un peu tout ce qui est ce trame du cinéma. Donc, ils reçoivent des gens, disons, c'est à 6 semaines du laboratoire proprement dit, les projets. Donc, ils essaient d'utiliser aussi les moyens de communication actuel, le WhatsApp, le Skype, et commence déjà à communiquer avec ces porteurs de projets-là. Et pendant le lab, on se retrouve tous, en fait, à l'intérieur d'un hôtel, on fait de telle sorte que les porteurs de projets soient très proches du mentor, parce que c'est là que tout se passe, maintenant, l'incubation, on appelle ça la phase d'incubation. Donc, il reçoit, bien sûr, des formations, en écriture de scénarios, pour ce qui est du cinéma de fiction, pour le développement, pour tout ce qui concerne le documentaire, et en pitching en fait. Ce point, j'aimerais bien insister là-dessus parce que c'est l'un des éléments importants durant le lab.
Donc, vous... insister sur la question du pitch.
Du pitch, voilà.
Tiens donc.
Le pitch, vous savez, c'est comme moi actuellement, nous les Africains, on parle beaucoup. Voilà, on parle beaucoup, on parle beaucoup, on vient difficilement sur le sujet proprement dit.
Ce qui peut être une qualité aussi.
Ben voilà, ce qui peut être aussi un défaut aussi lorsque aussi on se retrouve face à un bailleur de fonds qui est submergé de 1 million de dossiers, qui a 5 minutes, qui veut juste écouter, pour voir vraiment, l'originalité et la profondeur de ton projet avant de te financer. Et tu commences à. Bon, voilà.
Donc d'une certaine manière, vous accompagnez les gens pour structurer leurs pensées et puis aller au plus plus vite, structurer, vers l'essentiel.
Structurer les pensées aussi, donner aussi de la teneur aussi à leur projet, afin que ce projet il soit en griffe bancable et financière par des personnes qui sont capables de pouvoir donner, participer à, disons, à la création de ce film-là. Voilà.
Mais c'est très intéressant et très porteur.
Oui, c'est très intéressant parce que depuis 2 ans, nous le faisons, nous sommes submergés de projets, on reçoit une centaine de projets.
De partout.
D'abord, nous sommes en phase d'expérimentation, nous sommes en 3e édition, nous travaillons beaucoup plus sur, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais à partir de l'année prochaine, nous ouvrons au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique des îles, en fait, c'est-à-dire Madagascar, l'île Maurice.
Est-ce que vous travaillez aussi avec l'Afrique du Nord, qui est un tout petit peu plus avancée en termes d'école de cinéma, notamment?
Oui, pour le moment, nous n'avons pas encore intégré parmi les porteurs de projets l'Afrique du Nord, mais travaillant beaucoup avec les mentors comme Dora Bouchoucha de la Tunisie, comme Jean El Trari de l'Égypte. Et puis nous avons Mohamed Benassia, qui est un Tunisien qui a eu un très beau film au dernier Festival de Cannes. Et il y a 2 ans, il a eu le prix du meilleur premier film au Festival de Berlin, qui se rend pour faire des masterclass pour montrer un peu le succès de leur film, comment un jeune réalisateur, dès le premier film, arrive vraiment à pouvoir marquer un peu, disons, l'histoire du cinéma africain, voire mondial.
Est-ce que vous avez généré en 3 ans quelque chose de significatif?
Absolu. C'est 3 ans, c'est très peu pour le cinéma africain, mais déjà les projets qui ont été incubés, disons ça comme ça, dès la première édition, ce sont des projets qui se sont retrouvés après des laboratoires au niveau du Festival de Cannes à la Fabrique du Cinéma. Nous avons un projet l'année dernière qui a été incubé, qui a été 100% financé par l'État d'où vient le film. Le film, il est en tournage actuellement. Nous avons un film qui vient d'être fini et en montage et qui sera bientôt au Festival de Ouaga ou dans d'autres festivals.
Est-ce qu'ils sont aussi vus par les gens de l'intérieur? Ça veut dire que des projections sont aussi organisées pour les populations premières concernées?
Dans le cadre de Ouaga Film Lab, nous disons, comme nous avons cette chance d'avoir une brochette de personnes comme Gaston Caboret, comme Dora Bouchoucha, nous permettons vraiment à ces jeunes-là de voir des films qui ont déjà eu du succès. Donc, par exemple, le film de Mohamed Benassia, nous allons le montrer dans le cadre de Ouaga Film Lab.
Oui, je parlais aussi surtout de ces nouveaux projets qui naissent.
Oui,
est-ce qu'ils ont déjà été donnés à voir?
Non, mais ce sont des projets qui n'ont pas encore été...
C'est magnifique. J'ai une question très spécifique pour vous. Elle est à la fois personnelle et générale. Est-ce que vous pensez qu'un bon réalisateur est un bon transmetteur de savoir?
Bonne question qui se convertit dans tous les domaines d'ailleurs.
Ouais, c'est une question qui se pose très régulièrement.
La question, je vais répondre d'une manière subjective.
Très volontiers.
Voire objective aussi, si je peux dire.
Les deux vont ensemble.
Voilà. Je dirais tout simplement, comme on le dit en fait, oui et non, il est un bon transmetteur de savoir parce qu'au moins le réalisateur, je parle du cas du réalisateur africain, c'est l'artiste en fait, au moins qui a la possibilité de dire tout ce qu'il veut sans être gêné en fait, par tout ce qui est politique, par tout ce qui est comme tout à l'heure vous avez parlé de films de Eddy du Burundi que je connais très bien. Mm-hmm. Voici quelqu'un qui a eu l'audace en fait de dire ce que les gens pensent plus bas.
Mais avec le risque de se faire censurer finalement.
Exactement, oui, mais le film, au moins, il est censuré dans son pays d'origine, mais en même temps, ça donne la possibilité aux Burundais, beaucoup de Burundais sont à l'extérieur, au Rwanda, j'y étais il y a à peine 3-4 semaines, beaucoup de Burundais y vivent, en Belgique aussi, où vivent de nombreux, ces personnes, elles arrivent quand même de voir ce qui se passe à l'intérieur de leur pays, parce que carrément, toutes les communications sont coupées.
En effet,
donc,
absolument.
Donc, au moins, c'est un transmetteur de savoir.
Tout à fait. Alors, vous pensez, mais c'est marrant, je trouve très fort et très intéressant votre réponse, parce que vous prenez ma question un peu d'une manière inattendue que j'apprécie beaucoup. Moi, je parlais vraiment d'un strict point de vue pédagogique et vous me parlez d'un... Vous nous offrez une dimension supplémentaire. Mille merci.
Merci beaucoup.
Et j'aurais envie de vous interpeller comme sur une question. Finalement, la formation, les ateliers, les laboratoires, comment est-ce que vous faites savoir, comment est-ce que vous les faites connaître à travers les différents pays d'Afrique?
Nous, on a cette chance-là quand même d'être, comme nous sommes un collectif, nous avons au sein des collectifs des programmateurs de festivals, nous avons, disons aussi, des réalisateurs, nous avons aussi beaucoup d'instituts qui nous accompagnent. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes quasi la seule plateforme en fait de laboratoire au niveau de l'Afrique de l'Ouest, voire au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc vu l'importance du lab à la première édition, il y a eu un impact en fait qui a pris sur tout le continent. Donc nous avons eu la chance du coup aussi, dès la première édition, d'être invités au Festival de Cannes, nous avons eu une grande plateforme pour présenter le projet.
Ça a l'air d'être extrêmement important pour vous, Cannes.
Oui, ça peut être important parce que c'est le lieu aussi en tant qu'une personne qui travaille dans le cinéma, pour pouvoir y être, c'est là aussi que tout se passe. Souvent on dit, on va à Cannes, c'est pas forcément pour voir des films, c'est pour faire le marché. Donc c'est pour rencontrer des gens et présenter sa propre
Très bien, c'était juste pour savoir un peu quelle résonance ça avait. Ouais. Mais en fait, est-ce que je peux encore, Fabien, parce que...
Non, je vous en prie, allez-y, j'ai une dernière question, mais je la poserai après.
Mais vas-y.
Non, quel est l'impact, j'ai envie de savoir, quel est l'impact d'Internet pour vous?
Mais absolument, justement, pour pouvoir répondre à votre question, c'était ça aussi. Nous, comme on disait, nous sommes le collectif Génération Film, le mot Génération, c'est-à-dire nous essayons quand même de travailler avec les moyens de notre génération. Dans notre collectif, nous avons des gens qui travaillent beaucoup sur Facebook, qui sont des managers de réseaux sociaux et autres. En fait, nous avons tout ça dans le collectif et c'est très important. Nous travaillons avec un budget qui est très, très faible, en fait. Nous avons un budget qui est très minime comparativement à d'autres projets. Nous travaillons beaucoup sur l'Internet actuellement. Donc, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur notre plateforme, en fait. Nous l'utilisons beaucoup vraiment parce que nous savons le cible que nous voulons atteindre, les jeunes porteurs de projets, ils sont beaucoup plus, en fait, sur l'Internet, en fait, que sur les autres, disons, sur les autres moyens de communication. Ce qui fait que notre appel à projet, ce n'est pas en papier, tout se fait au niveau de l'Internet. Et l'application aussi, comment dirais-je, pour les projets, comme ce qui se faisait avant, pour envoyer un dossier par papier, par la poste, nous ne le faisons pas. Et toute la soumission, en fait, se fait par Internet. Donc, ça donne la chance, en fait, et la possibilité à tout le monde de pouvoir proposer un projet.
Est-ce que vous avez un cœur dans ces mises en place de projets, depuis l'écriture jusqu'au dernier clic de la souris pour le montage, de faire appel à des savoir-faire locaux parce que souvent, ce qui se passe dans beaucoup de films, il n'y a qu'à voir les génériques, le chef opérateur vient de France, le monteur est belge, la script vient de Tataouine-les-Bains. Et puis, etc., etc. Est-ce que vous avez cette préoccupation, en fait, de faire des choses quand même à l'intérieur pour faire valoir ou continuer à former les gens dans les différents métiers du cinéma à l'intérieur de votre boîte?
Je dirais tout simplement ce qui fait que nous, dès le début, en fait, au niveau de la sélection du projet, nous avons sur la base que nous prenons un réalisateur et un producteur. Vous savez que dans la chaîne de la fabrication d'un film, le producteur joue un rôle aussi important que l'auteur qui est le réalisateur. C'est la personne qui est habilitée pour aller chercher de l'argent. Mais en même temps aussi, il faut qu'on se dise aussi qu'aujourd'hui, fabriquer un film n'est plus une affaire d'une nation, ce n'est plus une affaire d'un pays. Tout cinéma, en fait, se fabrique, en fait, sur le plan international. Aujourd'hui, que nous soyons égyptiens, que nous soyons sud-africains, que nous soyons thaïlandais, en fait, tout film, en fait, que vous voyez, en fait, il y a toujours la marque, je prends le cas, Burkina Faso, France, Thaïlande, Allemagne et autres, en fait. Il faut que nous sommes dans un monde qui est carrément mondialisé. À partir du moment que le réalisateur, l'auteur, il vient du cas du Burkina Faso, et il est conscient que le technicien qui vient de Thaïlande, en fait, pourra faire de telle sorte que son film, en fait, soit de belle facture, en fait, il faut le faire. Il va falloir aussi qu'à travers le cinéma, on essaie de briser les frontières. Nous sommes une génération, en fait, que même étant aujourd'hui en Suisse, en fait, on pense au Burkina, on a notre idée, notre esprit au Burkina. Il faut qu'on arrive à briser ces frontières. Et ces frontières, c'est lorsque nous allons quitter un peu sur le côté nationaliste des films, en fait, pour avoir, en fait, des films universels, en fait. Aujourd'hui, même un pays comme la Suisse, comme l'Allemagne, utilise, en fait, des techniciens qui viennent des États-Unis, qui viennent de la France, ou même qui viennent du Burkina. Moi, je pense que c'est comme ça que notre génération, en fait, pourra, en fait, à travers les films, montrer que le vivre ensemble, en fait, peut être aussi artistique.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je parlais essentiellement des frustrations. Ce que vous venez de dire là est tout à fait juste et j'y adhère. C'est juste que je sais que, par exemple, en Algérie, on fait en sorte à donner l'accès à des jeunes qui expriment des besoins précis pour se former dans tel ou tel métier. Mmh. Et puis, histoire aussi d'avoir une vision complète. Parce qu'un Français ne sait pas vraiment ce qui se passe en Algérie. Juste ça. Mais je comprends très bien votre argumentaire.
Merci beaucoup, Moussa Sawadago. Merci d'être passé
merci
ce soir.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Mais avec grand plaisir. Merci. On rappelle le nom de votre lab film, Waga Film Lab, qu'on peut retrouver également sur Internet. Bien sûr, dans quelques instants, on vous parle du film Le Fou, Le Génie et Le Sage. Petite question pour vous. Oui. Vous allez savoir, c'était une petite question piège. Mais non, elle n'est pas piège du tout. Je suis sûr que vous allez savoir. Quel est le nom de l'artiste du Burkina Faso qui est dit El Grand Balaké?
Balaké? Je crois que c'est Balaké, en fait. Mais le nom du... Je n'ai pas très bien compris la question.
si je vous dis El Grand Balaké,
Je suis en train de chercher... Elle grande Balaké. Je connais très bien Balaké qui est décédé il y a à peine 5-6 ans au Burkina.
Ben... Eh bien là, il s'agit de Youssouf Diarra.
Alors, voilà. Et beaucoup d'informations.
Il semblait que c'est son
fils. Non, voilà. Oui, non, je connais pas.
Non, bon, ben voilà.
Alors, bonne découverte.
Voilà. Merci beaucoup.
On vous a apporté quelques
informations de savoir.
Mille merci, merci Moussa, beaucoup. Pour avoir accepté de.
Ça a été un plaisir. Merci avec beaucoup. Nous. Merci.
On écoute cette chanson de Youssouf Diarra, Baby C.
Baba la jara min na jara, jeli la li baba bonya.
Youssouf Diarra avec sa chanson Babissi, une chanson du Burkina Faso de 1978.